10 minutes avec.
Radio Grenouille, 10 minutes avec.
La rédaction des 3-8, 10 minutes avec.
10 minutes avec François Desrues, porte-parole de coordination nationale des associations pour l'habitat participatif. Bonjour.
Bonjour.
Vous participez donc aux rencontres nationales de l'habitat participatif à Marseille. En quelques mots, l'habitat participatif, c'est quoi ?
C'est un projet de vie, une démarche qui réunit quelques familles pour construire un lieu qu'ils vont habiter ensemble, chacun chez soi, mais avec des espaces partagés.
Et donc, quels sont les avantages par rapport à une copropriété qu'on va qualifier de classique ?
Alors, l'avantage principal pour moi de l'habitat participatif, c'est le lien qu'on peut avoir avec ses voisins. D'abord parce qu'on avait conçu avec eux ce lieu de vie lorsqu'on construit ou rénove un lieu. Et ensuite parce que cette connaissance qu'on a des personnes, les espaces communs qu'on a pu aussi construire ensemble, font que en dehors du logement que toute personne possède dans une copro par exemple, on a des lieux intermédiaires qui ne sont pas des lieux publics, qui ne sont pas des lieux entièrement privés, qui sont des lieux collectifs où on peut s'entraider, où on peut partager des choses plaisantes, où on peut s'organiser collectivement, notamment grâce à des réunions qui réunissent l'ensemble des personnes.
Qu'est-ce que ça va être, par exemple, comme type d'espace ?
Typiquement, les espaces en habitat participatif, ça va être une salle commune avec une certaine polyvalence où on peut organiser du goûter d'anniversaire des enfants jusqu'à un petit concert parce qu'il y a des gens qui sont musiciens dans l'immeuble et jusqu'à éventuellement aussi des réunions plus sérieuses où on organise la vie collective et où parfois aussi on peut ouvrir plus vers l'extérieur soit vers d'autres associations, soit vers des choses qui impliquent les personnes du quartier.
En général, un groupe d'habitants qui se lance dans une démarche d'habitat participatif, ça représente combien de personnes ?
Alors, il n'y a pas de groupe de taille prédéfini. On peut avoir des très grands groupes. Il y a des expériences jusqu'à 100 foyers. Donc, en plus, encore plus de personnes que ça qui ont existé en Suède ou en Norvège. Mais c'est vrai qu'autour de 10 personnes, autour de 10 foyers, c'est-à-dire, 15, 17 adultes, on a à la fois une assez grande diversité possible de compétences, de goût, de vision du monde qui peuvent être réunis dans le groupe. Aussi des capacités financières pour mutualiser notamment ces fameux espaces partagés, parce que c'est vrai qu'il faut aussi les financer collectivement. Et donc ça, c'est quand même un sujet. Et en même temps, c'est vrai qu'il y a des groupes qui sont peut-être de 2-3 familles seulement, mais ça va aussi poser d'autres questions de moindre possibilité de médiation finalement de l'ensemble du groupe vis-à-vis de ses membres, parce que quand on n'est que deux ou trois, s'il y a deux personnes qui rentrent en conflit, voilà, il y a le troisième qui est immédiatement se retrouve en position de médiateur, etc. Donc je pense que toutes les tailles de groupe sont possibles et ont été expérimentées, mais voilà, je crois qu'entre 8 et 12 familles, peut-être c'est là qu'on est dans l'optimum de ce que peut produire l'habitat participatif.
Mais du coup, comment on arrive à prendre des décisions en groupe comme ça ?
Alors ça suppose d'être très organisé, c'est-à-dire qu'il y a des réunions plénières où il est important que tous les adultes parties prenantes du projet soient présents, éventuellement dans certains moments les enfants ou les grands ados ou les jeunes adultes aussi d'ailleurs. Ça c'est ce qu'on pourrait appeler des sortes de plénières. Celles-là on les organise vraiment comme des réunions professionnelles, enfin disons, ou associatives, je ne sais pas exactement quel est le bon format, mais donc avec un ordre du jour très précis, avec des décisions à prendre qui sont clairement fléchées, si possible même affichées clairement avant pour que les gens aient pu préparer leurs décisions, etc., et leurs arguments. Et puis tous les groupes, bien sûr, se répartissent en sous-groupes de travail, ou en commission, enfin ça a toutes sortes de sujets. Les grands thèmes qui sont à défricher pour un groupe, c'est le juridique et le financier, parce que c'est vrai que pour construire, il faut se structurer sur ces sujets-là fortement. La vie collective, les espaces partagés, ce qui fait vraiment la vie commune. La recherche d'un terrain foncier, parce que un groupe qui bâtirait tout un projet imaginaire sans être confronté à un foncier sera certainement d'ailleurs en grande difficulté le jour où il va trouver un terrain, parce que c'est là qu'on commence à se projeter vraiment sur les choses. Et ensuite, bien sûr, ce qu'on va construire, donc peut-être souvent les groupes appellent ça architectural, la commission architecturale ou la commission du projet de construction, qui va vraiment travailler sur la phase de programmation, etc., et qui prépare les décisions qui viennent ensuite en plénière.
Et donc concrètement, si aujourd'hui j'ai envie de me lancer dans l'aventure de l'habitat participatif, qu'est-ce que je fais ? C'est quoi la première étape ?
Alors je pense que la première étape que moi je conseillerais, ce serait d'abord de vérifier si sur le territoire où je vis ou où je veux vivre, il n'y a pas une initiative existante. Parce qu'en fait, aujourd'hui en France, il y a des centaines de groupes qui sont sans doute en démarrage. Et c'est quand même compliqué d'initier un groupe, de forcément vouloir tout créer ex nihilo soi-même. C'est parfois passer à côté d'un groupe qui recherche une famille, qui va peut-être être soit au départ d'un projet, mais soit même des fois assez avancé. Et en fait, même s'il y a toujours une petite appréhension, mais est-ce que les valeurs qu'ils vont avoir choisi de mettre en commun, etc., est-ce que tout ça va me convenir ? Il faut dépasser ça, parce qu'en fait, en allant rencontrer des gens, on va peut-être constater qu'on peut tout à fait converger. Donc pour moi, la première étape, c'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas une initiative qui existe déjà sur mon territoire ? Ensuite, si ce n'est pas le cas, par exemple, alors il faut être assez inventif pour faire connaître autour de soi, essayer de réunir un petit groupe et puis démarrer l'aventure.
Faire une annonce sur Internet ?
Il y a plein de choses possibles. Donc il y a des sites maintenant qui proposent la possibilité de faire une annonce. Il y a des collectivités qui proposent des terrains à bâtir en habitat participatif. Donc là, on peut répondre tout simplement sur des consultations. Il y a des lieux de rencontre, des réunions, des associations locales qui proposent aussi des choses.
Et donc vous êtes vous-même habitant d'un habitat participatif ?
Oui, je suis habitant de l'immeuble écologique qui réunit 10 familles à Strasbourg. Qui a été construit entre 2009 et 2010, et donc on habite depuis septembre 2010.
À quoi il ressemble exactement ?
Alors c'est un immeuble en bois, donc qui a été quand même partiellement crépi, parce que c'est la structure même qui est en bois. Et c'est donc tous les espaces communs sont dans le rez-de-chaussée, qui est semi-enterré côté rue et qui donne ensuite là où il est ouvert vers le jardin partagé. Et ensuite, y a ces 10 logements, alors qu'ils sont répartis par des coursives, desservis par des coursives extérieures. Et donc, chaque logement a à la fois des grandes terrasses au sud et ses accès au nord par des coursives. Et on dit souvent que c'est sur les coursives qu'on apprend d'ailleurs plein de choses de la vie de l'immeuble. C'est vrai, en rentrant, en papotant sur les coursives, c'est là qu'on voit plein de choses.
Donc jusqu'à aujourd'hui, j'imagine que vous êtes extrêmement satisfait de cette expérience.
C'est extrêmement intense. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une vraie effervescence dans la phase, bien sûr, de projet. Ça a été très très intense de concevoir le lieu et de suivre sa réalisation. Mais dans la phase de vie, c'est très intense aussi. C'est-à-dire que la solidarité, c'est pouvoir demander un service à son voisin, mais aussi quand même se donner un peu l'obligation, c'est pas une obligation systématique, mais d'entendre quand quelqu'un vous demande un service. Donc c'est l'attention à l'autre, c'est une certaine disponibilité, ça suppose d'investir dans la relation de voisinage.
Dans votre cas, quelles ont été les principales difficultés auxquelles vous avez été confronté ?
Dans la phase projet, c'est souvent la longueur. Ça faisait partie des projets pionniers.
Il y a des gens qui abandonnent d'ailleurs parfois.
Il y a des gens qui sortent parfois des projets parce que c'est trop long ou parce que dans leur vie, il y a un changement de travail, ils rencontrent quelqu'un, au contraire, ils se séparent. Finalement, le projet de logement qu'ils avaient ne correspond plus à ce dont ils ont besoin. Mais ça a été toujours un peu cette difficulté. Ça fait partie des difficultés qui existent dans la phase de conception de l'immeuble. Dans la phase de vie commune, la difficulté, c'est de continuer à se donner l'envie d'être ensemble, quoi. Donc, il y a des conflits qui apparaissent, il y a du bruit dans un immeuble, toujours. Les enfants ne sont pas éduqués pareil. Il y en a un qui donne un coup de poing dans le bac à sable à l'autre. Alors, est-ce que c'est parce que c'est un petit sauvage mal éduqué ou est-ce que c'est parce que l'autre ne sait pas se défendre ? Enfin, on peut entendre toutes sortes de choses, quoi. Et donc, effectivement... Ça fait partie des choses qui peuvent un peu accrocher.
Merci, François Desrues.
La rédaction des 3-8, 10 minutes avec.